pieds pour te plaire, l'eau qui coule pour te rafraîchir, la sève qui bouillonne pour te rendre une jeunesse. Et je ne suis rien, maître, si je ne suis pas tienne. » Elle se donna et il la prit. À ce moment, un reflet de lune l'éclairait dans sa nudité souveraine. Elle apparut comme la beauté même de la femme à son immortel printemps. Jamais il ne l'avait vue si jeune, si blanche, si divine. Et il la remerciait du cadeau de son corps comme si elle lui eût donné tous les trésors de la terre. Aucun don ne peut égaler celui de la femme jeune qui se donne et qui donne le flot de vie, l'enfant peut-être. Ils songèrent à l'enfant. Leur bonheur en fut accru dans ce royal festin de jeunesse qu'elle lui servait et que des rois auraient envié. Chapitre 11. Mais dès la nuit suivante, l'insomnie inquiète revint. Ni Pascal ni Clotilde ne se disaient leur peine. Et, dans les ténèbres de la chambre attristée, ils restaient des heures côte à côte, feignant de dormir, songeant tous les deux à la situation qui s'aggravait. Chacun oubliait sa propre détresse, tremblait pour l'autre. Il avait fallu recourir à la dette. Martine prenait à crédit le pain, le vin, un peu de viande, d'ailleurs pleine de honte, forcée de mentir et d'y mettre une grande prudence, car personne n'ignorait la ruine de la maison. L'idée était bienvenue au docteur d'hypothéquer la souleyade. Seulement, c'était la ressource suprême. Il n'avait plus que cette propriété, évaluée à une 20 000 francs. Et dont il ne tirerait peut-être pas 15 000 s'il la vendait. Après, commençait la misère noire, le pavé de la rue, pas même une pierre à soi pour appuyer sa tête. Aussi, Clotilde le suppliait-elle d'attendre, de ne s'engager dans aucune affaire irrévocable, tant que les choses ne seraient pas désespérées. 3 ou 4 jours se passèrent. On entrait en septembre. Et le temps, malheureusement, se gâtait. Il y eut des orages terribles qui ravagèrent la contrée. Un mur de la souleyade fut renversé, qu'on ne put remettre debout. Tout un écroulement dont la brèche resta béante. Déjà, on devenait impoli chez le boulanger. Puis, un matin que la vieille servante rapportait un pot-au-feu, elle pleura. Elle dit que le boucher lui passait les bas morceaux. Encore quelques jours, et le crédit allait être impossible. Il fallait absolument aviser, trouver des ressources pour les petites dépenses quotidiennes. Un lundi, comme une semaine de tourments recommençait, Clotilde s'agita toute la matinée. Elle semblait en proie à un combat intérieur. Elle ne parut prendre une décision qu'à la suite du déjeuner, en voyant Pascal refuser sa part d'un peu de bœuf qui restait. Et, très calme, l'air résolu, elle sortit ensuite avec Martine, après avoir mis tranquillement dans le panier de celle-ci un petit paquet, des chiffons qu'elle voulait donner, disait-elle. Quand elle revint, 2 heures plus tard, elle était pâle. Mais ses grands yeux, si purs et si francs, rayonnaient. Tout de suite, elle s'approcha du docteur, le regarda en face, se confessa. J'ai un pardon à te demander, maître, car je viens de te désobéir, et je vais sûrement te faire beaucoup de peine. Il ne comprenait pas, il s'inquiéta. Qu'as-tu donc fait ? Lentement, sans le quitter des yeux, elle prit dans sa poche une enveloppe d'où elle tira des billets de banque. Une brusque divination l'éclaira, il eut un cri. « Oh mon Dieu, les bijoux, tous les cadeaux !» Et lui, si bon, si doux d'habitude, était soulevé d'une douloureuse colère. Il lui avait saisi les deux mains, il la brutalisait presque, lui écrasait les doigts qui tenaient les billets. « Mon Dieu, qu'as-tu fait là, malheureuse? C'est tout mon cœur que tu as vendu. C'est tout notre cœur qui était entré dans ces bijoux et que tu es allé rendre avec eux pour de l'argent. Des bijoux que je t'avais donnés, des souvenirs de nos heures les plus divines, ton bien à toi seul. Comment veux-tu donc que je le reprenne et que j'en profite? Est-ce possible? As-tu songé à l'affreux chagrin que cela me causerait ?» Doucement, elle répondit. « Et toi, maître, penses-tu donc que je pouvais nous laisser dans la triste situation où nous sommes, manquant de pain, lorsque j'avais là ces bagues, ces colliers, ces boucles d'oreilles qui dormaient au fond d'un tiroir? Mais tout mon être s'indignait. Je me serais cru une avare, une égoïste, si je les avais gardés davantage. Et si j'ai eu de la peine à m'en séparer, oh oui, je l'avoue, une peine si grosse que j'ai failli n'en pas trouver le courage. Je suis bien certaine de n'avoir fait que ce que je devais faire, en femme qui t'obéit toujours et qui t'adore. » Puis, comme il ne lui avait pas lâché les mains, des larmes parurent dans ses yeux. Elle ajouta de la même voix, avec un faible sourire, « Serre un peu moins fort, tu me fais très mal. » Alors lui aussi pleura, retourné, jeté à un attendrissement profond. « Je suis une brute, me fâcher ainsi. Tu as bien agi, tu ne pouvais agir autrement. Mais pardonne-moi, cela m'a été si dur de te voir dépouillé. Donne-moi tes mains, tes pauvres mains, que je les guérisse. » Il lui reprit les mains avec délicatesse et il les couvrait de baisers. Il les trouvait inestimables, nues et si fines, ainsi dégarnies de bagues. Maintenant, soulagée, joyeuse, elle lui contait son escapade, comment elle avait mis Martine dans la confidence et comment toutes deux étaient allées chez la revendeuse, celle qui avait vendu le corsage en vieux point d'Alençon. Enfin, après un examen et un marchandage interminables, cette femme avait donné 6 000 francs de tous les bijoux. De nouveau, il réprima un geste de désespoir. 6 000 francs, lorsque ces bijoux lui en avaient coûté plus du triple, une 20 000 francs au moins. « Écoute, finit-il par dire, je prends cet argent, puisque c'est ton bon cœur qui l'apporte. Mais il est bien convenu qu'il est à toi. Je te jure d'être à mon tour plus avare que Martine. Je ne lui donnerai